Cantique 112, strophes 4 et 5. Cent dix, strophe 4.
Je voudrais lire un passage dans Ézéchiel, chapitre 44, à propos des sacrificateurs, les Lévites, les fils de Tsadok. Nous avons évoqué ce matin le mur de protection que nous devons avoir vis-à-vis de nos foyers, des foyers chrétiens. Et en particulier aussi peut-être le rôle du père de famille dans l'enseignement. Ézéchiel 44, à propos des sacrificateurs, qui nous parle de cette sacrificature pendant le temps du millénium. Mais il y a un enseignement précieux en ce qui concerne aussi les chefs de famille, les parents. Ézéchiel 44, verset 20. Alors il est dit, ne se raseront pas la tête et ne laisseront pas croître librement leurs cheveux. Ils auront soin de couper les cheveux de leur tête. Et aucun sacrificateur ne boira de vin quand il entrera dans le parvis intérieur. Verset 23, et ils instruiront mon peuple à distinguer entre ce qui est saint et ce qui est profane. Ils lui feront connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. N'y a-t-il pas un enseignement très pratique pour nos foyers chrétiens? Pour nos familles et aussi pour l'Assemblée. Et nous sommes bien sûr des enfants de Dieu, mais il est dit que nous, Nous sommes aussi des rois et des sacrificateurs. Et souvent, bien sûr, on parle de la sacrificature en rapport avec le culte, avec l'adoration. Mais nous voyons ici que les sacrificateurs avaient un rôle aussi d'instruire. Et ils instruisaient ou ils instruiront le peuple de Dieu à distinguer entre ce qui est saint et ce qui est profane, entre ce qui est impur et ce qui est pur. N'y a-t-il pas un enseignement pratique pour nos familles ? Est-ce que nous ne devons pas enseigner à nos enfants de faire la différence entre ce qui est approuvé de Dieu et ce qui n'est pas approuvé par Dieu ? Nous savons que ce qui est saint, bien sûr, est approuvé de Dieu, mais tout ce qui est profane, qui est en opposition avec l'enseignement de la parole de Dieu, ce qui est impur, tout ce que nous trouvons dans le monde, et ce qui est pur, ce qui est enseigné par la parole de Dieu. N'avons-nous pas un rôle, grands-parents, parents, chef de famille, épouse, mère de famille, à enseigner à nos enfants en se basant sur la parole de Dieu? La parole de Dieu, c'est notre référence, c'est notre guide, et ne doit-elle pas avoir cette autorité sur nos cœurs, sur nos consciences, sur nos âmes? Ne devons-nous pas apprendre à nos enfants à distinguer ce qui est saint et ce qui est profane, ce qui est impur et ce qui est pur? Alors, au verset 20, nous pouvons lire assez curieusement que les fils de Tsadok, eh bien, ils ne se rasaient pas la tête, mais ils coupaient aussi leurs cheveux. Donc, ils n'avaient pas les têtes rasées, ils avaient des cheveux, mais pas trop longs. Et cela nous parle aussi de l'équilibre entre la grâce et la vérité, c'est-à-dire faire attention aussi à ne pas toujours insister sur la vérité en oubliant la grâce, mais aussi on peut insister beaucoup sur la grâce avec les dangers de laxisme, mais ne devons-nous pas être frères et sœurs, pères de famille, chefs de famille, avoir cet équilibre chrétien et entre la grâce et la vérité? Nous avons des tendances naturelles, tous, des tendances peut-être à insister sur la vérité, mais n'oublions pas la grâce. Mais nous pouvons aussi avoir cette tendance contraire, d'insister toujours sur la grâce, sur la grâce, sur l'amour, et oublier la vérité. Qu'il nous soit donné, frères et sœurs, à avoir cet équilibre chrétien, mais enseigner aussi dans l'Assemblée ce qui est saint et ce qui est profane, ce qui est impur et ce qui est pur, ce qui est approuvé de Dieu.
Peut-être on peut revenir aussi sur ces versets 4 à 6. Nous avons vu que la réaction de Néhémie sur ce moquement de Sanballat et de Tobia, c'est une chose négative. C'est premièrement la prière et c'est deuxièmement de continuer à bâtir, à rebâtir. Nous avons déjà parlé un peu sur la prière. Écoute, ô notre Dieu, car nous sommes méprisés. Ça nous montre qu'ils font leur situation comme la situation de Dieu. Ils étaient méprisés et ils apportent ce problème, cet méprisement à Dieu lui-même, qu'il s'occupe. Il ajoute et fait retomber leur outrage sur leur propre tête et livre les eaux mépris dans un pays de captivité, etc. C'est la prière de vengeance. Est-ce que c'était juste? Oui, c'était juste. Parce que dans ce temps-là, les ennemis du peuple de Dieu, par leurs actions, par leur cœur et par la longueur de leur rébellion contre Dieu, comme contre le peuple de Dieu, ils ont révélé leur état qui était, pour ainsi dire, complet. C'était un état mauvais, complet. Et comme dans les psaumes, on voit que les croyants dans l'Ancien Testament, ils ont prié que Dieu donne la vengeance sur ses ennemis qui étaient ennemis de Dieu. Certainement aussi pour eux, cette vengeance, pour Néhémie et ses autres croyants, cette vengeance de Dieu, ce n'était pas eux-mêmes qui ont utilisé cette vengeance, mais ils ont mis ce cas devant Dieu, mais cette vengeance sera pour eux aussi en même temps une délivrance. Délivrance de ses ennemis si Dieu s'occuperait d'eux. Pour nous, comme croyants de notre temps aujourd'hui, l'apôtre Paul, déjà le Seigneur, dire que nous devons bénir, prier pour nos ennemis. Et l'apôtre Paul dit dans Romains 12, dans le verset 19, Romains 12, verset 19, « Ne vous vengeons pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, moi je rendrai, dit le Seigneur. » Et nous voyons que c'est une citation de l'Ancien Testament. « Si donc ton ennemi a faim, donne-lui à manger, c'est la soif, donne-lui à boire, car en faisant cela, tu entasseras des charbons de feu sur sa tête. » Ça nous montre que pour nous, on ne prie jamais pour la vengeance. Au contraire, on essaye de prêcher par nos actes, par nos comportements, l'amour envers ceux qui sont nos ennemis, pour que Dieu les sauve encore. Mais dans l'Ancien Testament, et ça sera le cas encore une fois dans le futur avec le résidu, parce que les ennemis, c'était des peuples ou des personnes, des groupes qui ont montré leur rébellion contre Dieu, contre la vérité et contre le peuple de Dieu d'une manière complète. Ils ont eu ce droit, et pas seulement cela, c'était d'après les pensées de Dieu. Continuons ici dans le chapitre 4. Premièrement, ils ont prié. Et c'est toujours la première chose qu'il faut faire. S'il y a le mépris, s'il y a des activités contre le peuple de Dieu, la première chose que nous faisons, ce n'est pas essayer de contredire, d'essayer de faire quelque chose, mais d'apporter cette situation à Dieu, notre Père, au Seigneur. Mais la deuxième chose que nous trouvons ici, et c'est remarquable que nous voyons dans tout ce chapitre, que c'est souvent, il y a deux choses qui vont ensemble. On ne peut pas dire, je prie, alors Dieu s'occupe de tout. Non, je prie et je fais ce que je peux faire. Parce que Dieu fait ce que nous ne pouvons pas faire. Et ils attendent de nous de faire ce que nous pouvons faire. Et ils étaient capables de rebâtir la muraille. Et en fait, toute la muraille fut reliée jusqu'à la moitié. Ce n'était pas encore complet, mais ils ont continué. Alors c'est aussi pour nous la même situation. S'il y a une attaque contre la vérité, une attaque contre l'assemblée, une attaque contre les principes du rassemblement, contre les principes de la réception à la table du Seigneur. Il faut premièrement apporter des choses à Dieu, prier. Mais après, il ne faut pas se laisser dire « on peut rien faire ». Et si, on peut faire, on peut rebâtir. S'il y a une brèche, s'il y a la muraille pas complète, il faut continuer, il faut rebâtir, il faut travailler sur cela, comme nous avons entendu, par exemple des instructions, par des échanges les uns avec les autres pour fortifier, pour encourager, pour continuer. Aussi par l'avertissement, on va se voir cette pensée plus tard. Et certainement, ça commence pour moi-même personnellement, comme on a vu dans le chapitre 3, ça commence ou ça continue avec la famille, ça continue avec le rassemblement local, ça continue avec la région dans laquelle nous nous trouvons. Et il y a autant à bâtir, à continuer dans ce travail, il faut le faire. Alors, on ne peut pas dire il faut travailler sans prière, mais il ne faut pas non plus dire il faut prier et rien faire. Non, il y a les deux choses qui vont ensemble ici. Et Néhémie est avec cela un exemple pour nous. Et c'est bien encourageant que c'est probablement plutôt Néhémie qui a prié, même s'il a dit « en notre Dieu », mais ce sont eux ensemble qui sont continués avec bâtir, rebâtir la muraille. Et c'est une responsabilité pour nous tous, pas seulement pour quelques frères, quelques familles, etc., mais c'est une responsabilité pour le peuple de Dieu.
Je voudrais illustrer un peu un aspect de ce que Manuel nous a présenté, en particulier pour les plus jeunes, pour les enfants. Au verset 6, il nous est dit « nous rebâtîmes la muraille, et toute la muraille fut reliée jusqu'à la moitié. » La moitié de quoi ? La moitié de la hauteur. Imaginons cette ville entourée d'une haute muraille, je ne sais pas, 5, 6, 8 mètres de hauteur, qui avait été mise à bas par Nebuchadnezzar presque 100 ans plus tôt. Voilà. Tout était des bouts de mur par-ci, des bouts de mur par-là, aucun mur qui n'allait jusqu'à la hauteur initiale, et puis des endroits, plus de mur du tout, le passage au niveau du sol. Chapitre 4, on a vu qu'ils se sont mis à construire tout au long de la muraille, partout en même temps. Ils n'ont pas commencé à un bout. Allez, on commence, on fait un bout de mur, et puis une équipe remet en place, et l'autre fait la finition, et on avance un mur complet en faisant le tour de la ville. Ce serait très beau de faire comme ça, mais ce ne serait pas efficace. Pendant qu'on construit un bout de la muraille, on a des brèches qui restent et des absences de murs à l'autre bout. Donc, ils ont construit partout en même temps. Et puis, il y a ce moment, c'est verset 6, ils sont arrivés à avoir une muraille, une demi-muraille au moins partout. Mais on lit un peu plus loin, verset 7, la prochaine colère, grande colère de Sanballat Tobija. Et au milieu du verset, il nous est dit, ils apprirent que la réparation des murailles de Jérusalem avançaient et que les brèches commençaient à se fermer. Les brèches. Mais on s'imagine cette muraille en partie à la hauteur, à la moitié, certains endroits plus hauts, et puis voilà, les parties plus basses commencent maintenant à se refermer. L'ensemble de la muraille est à au moins la moitié et le reste continue de monter. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? Ça veut dire que quand nous sommes dans l'état où nous sommes, quel qu'il soit à l'instant qu'on considère, on a parfois l'impression qu'il y a tel sujet qui est un sujet urgent dont il faut s'occuper et tout laisser pour s'occuper de ce sujet-là. Non. Il y a peut-être bien des sujets où à un moment il faut s'en occuper plus qu'à un autre moment. Mais pour autant, on ne laisse pas tous les autres sujets. La muraille doit être entretenue, reconstruite en entier. Il n'y a pas une vérité de la parole qui va primer au point qu'on laisse d'autres vérités. Nous devons tenir ceci et tenir cela, combattre ici, bon, construire ici, rester dans le contexte, et construire là. Les deux choses vont ensemble. Il y a peut-être un endroit où la brèche est plus basse, alors on va mettre un peu plus d'efforts là-dessus, mais pour autant, on continue de fermer les autres brèches. Je crois qu'il y a quelque chose de bien pratique là, qu'on peut chacun mettre des noms derrière ces choses-là, sans aller plus dans le détail. L'autre point que je voulais relever, c'est verset 4. « Écoute, ô notre Dieu, car nous sommes méprisés. » Et puis, au verset 9, « Et nous priâmes notre Dieu, et nous établîmes une garde contre eux jour et nuit à cause d'eux. » De nouveau, la prière qui vient d'abord, et à un côté, la construction, rebâtir, et de l'autre côté, la garde, veiller, surveiller. Les deux choses qui vont aussi ensemble.
On peut dire qu'avec le verset 6, on voit l'échec de la première colère et attaque de l'ennemi. Sanballat, Tobija, qui s'était mis en colère, qui s'était moqué, qui avait méprisé. Et on peut dire, il me semble qu'avec le verset 6, on voit que cette attaque n'a pas abouti et que, avec la persévérance dans la construction de la muraille, c'est une victoire pour ces hommes qui étaient engagés à la reconstruction. Mais de nouveau, l'ennemi, avec le verset 7, va agir et va changer sa stratégie. Première stratégie, c'est, on l'a dit, moquerie, mépris. Et là, la stratégie, versets 7 et 8, change. Il y a toujours cette colère. Mais la façon de faire maintenant, c'est qu'ils se liguent tous ensemble. Et on voit que la coalition paraît plus importante qu'au début du chapitre. Donc il y a les Arabes, les Ammonites, les Asdodiens. Et ils se liguèrent tous ensemble pour venir faire la guerre contre Jérusalem et pour lui causer du dommage. Donc là, c'est plus la moquerie et le mépris, mais c'est la violence. Et c'est l'opposition ouverte, et c'est on veut casser l'ouvrage. Et ça nous montre que l'ennemi sait s'adapter, changer de stratégie, et il y a cette stratégie de la grande coalition, et ça aussi c'est quelque chose qui peut nous impressionner naturellement, d'avoir du monde face à nous, beaucoup de personnes contre nous, on se sent seul. On se sent peu nombreux, on se sent faible dans ce sens, et on peut être impressionné. Et aussi ce côté de la violence ouverte et cette volonté de l'ennemi de faire la guerre et de causer du dommage. Donc c'est plutôt le lion rugissant dont la première épître de Pierre nous parle, chapitre 5. Et voilà. D'abord, c'était plutôt peut-être le serpent avec les moqueries et le mépris. Là, c'est le lion rugissant qui cherche à effrayer par le nombre, la coalition et par la violence et la détermination à venir et à casser et à tuer. Même, on le voit après au verset 11. Et on a souligné que, de nouveau, la prière est là avec la vigilance. Et voilà, donc on voit... Et on l'a déjà mentionné plusieurs fois, l'importance du rôle de la prière dans la vie de Néhémie. Et je mentionne juste, c'est un sujet par exemple pour les plus jeunes, un exercice de rechercher par exemple dans les 12 premiers chapitres des Actes, donc le début de l'histoire de l'Église, 12 premiers chapitres des Actes, combien de fois il est fait mention de la prière dans ces chapitres ? Pour montrer simplement à quel point la prière est importante dans la vie du peuple de Dieu, et en face des difficultés et des dangers, ne sous-estimons pas du tout cette ressource de la prière.
Dans une prière ce matin, il a été dit qu'il y avait peut-être des personnes qui se demandaient pourquoi on va chercher un vieux texte qui date depuis si longtemps, quel est l'intérêt pour nous. Je parle ici plutôt pour les plus jeunes, mais même pour nous, parce que des fois, on a difficile à actualiser ces textes pour nous. Il suffit parfois juste de transposer un petit peu. Par exemple, lisons chapitre 4, verset 2, et il, verset, fin du verset 1, « Et il se moqua des Juifs ». Pour nous, ben, traduisons, si c'était maintenant, il se moqua des chrétiens. Et là prend toute sa valeur ce que Benjamin a dit ce matin. Voilà, on se moque peut-être de moi parce que je suis un chrétien, parce que mes parents sont chrétiens, parce que le dimanche, plutôt que d'aller jouer, je vais au culte. Et donc voilà, tout d'un coup, quand on dit se moqua des chrétiens, ça me parle. Et souvent, c'est déjà en tant qu'enfant, en effet, qu'on est gêné. On est gêné parce que voilà, on n'est pas comme les autres. Mais heureusement qu'on n'est pas comme les autres. Un chrétien, c'est un fils de Dieu, c'est quelqu'un qui a été sauvé. Et cela devrait nous réjouir et pas nous rendre honteux. Puis un peu plus loin, nous lisons donc ici au verset 6, « Et le peuple avait le cœur au travail ». Il s'agit ici du peuple d'Israël, mais transposons pour nous. Le peuple de Dieu, c'est-à-dire tous les chrétiens. Et il est dit quoi ici? Les chrétiens avaient le cœur au travail. Et ce serait bien si tous les chrétiens avaient le cœur au travail. Et pour encore plus l'actualiser pour moi, ce serait bien si moi, j'avais le cœur au travail. Quand on regarde dans un dictionnaire avoir le cœur au travail ou le cœur à l'ouvrage, ça nous donne quoi? Ça nous dit de faire un travail avec enthousiasme, avec entrain. Et avant de parler de travail, est-ce que le dimanche matin, quand je vais au culte ou quand je vais à la réunion de prière, est-ce que j'y vais avec entrain, avec enthousiasme? Est-ce que je suis content le dimanche matin d'aller au culte? Ou est-ce que j'y vais parce que c'est l'habitude, parce que c'est pas mal? Mais est-ce que j'y vais avec enthousiasme? Si je ne vais pas avec enthousiasme au culte, j'aurai difficile à travailler pour le Seigneur, pour l'Assemblée, avec enthousiasme ou avec entrain. Et nous réalisons bien là souvent que nous sommes tièdes. C'est le reproche qui est fait à l'Assemblée de Laodicée. Elle est tiède. Ben, tiède, c'est pas trop mal, c'est pas froid. Ah oui, mais Dieu, pour Dieu, c'est très mauvais cet état de tiédeur. Et donc, que le Seigneur nous donne d'avoir cet enthousiasme, d'abord pour l'Assemblée, pour rencontrer le Seigneur, et puis pour combattre pour l'Assemblée. Et puis plus loin, nous lisons au verset 8, « Pour venir faire la guerre contre Jérusalem et pour lui causer du tort. » Ça veut dire quoi, pour faire la guerre contre Jérusalem? Mais pour nous, c'est faire la guerre contre l'Assemblée de Dieu. L'Assemblée, c'est l'ensemble de tous les croyants. Mais pour moi, cela me rend encore plus pratique. Dans un premier temps, c'est l'Assemblée locale où je me trouve. Quand je suis un enfant ou quand je suis plus jeune, c'est l'Assemblée locale où je vais. Mais c'est là que je dois faire attention pour que Satan ne fasse pas du tort. Et on a parlé beaucoup d'ennemis. C'est facile à comprendre, un ennemi, des soldats qui veulent venir pour faire la guerre. Mais ça veut dire quoi pour nous? Qui est notre ennemi? Qui sont nos ennemis? Nous avons un ennemi, c'est Satan. C'est le diable. On l'a dit, il ne supporte pas, quand Dieu travaille, il ne supporte pas cela. Alors l'ennemi, c'est Satan. Mais Satan, il utilise des personnes. Et qui sont ces personnes qu'il utilise? Ce n'est pas une armée lointaine. Eh bien, il peut utiliser un ami. Il peut utiliser un voisin. Il peut utiliser un collègue de travail. Il peut même utiliser un membre de la famille. C'est comme ça que Satan travaille. Et c'est comme ça qu'il y a des ennemis. Bien sûr, l'ami, ce n'est pas un ennemi. Mais si mon ami me dit, ne va pas le dimanche, on a d'autres choses à faire, on a un match de foot important. Mais c'est Satan qui est derrière. Et donc, nos ennemis sont partout. C'est tous ceux qui nous détournent de la Bible, c'est tous ceux qui nous détournent du Seigneur, c'est tous ceux qui nous détournent de l'Assemblée. Alors faisons attention à tous ceux qui veulent nous faire du tort, faire du dommage, parce que d'abord, Satan fait du tort aux personnes, seul, puis dans les familles, et puis ça arrive dans l'assemblée. Donc nous devons déjà, en tant qu'individus, faire très attention, parce que Satan veut faire des dommages. Alors on a aussi beaucoup parlé de murailles. Je pense qu'il est important de dire que la muraille, le mur, comme nous le voyons ici, comme nous l'avons vu l'année passée, c'est une séparation entre les croyants et le monde. On n'érige pas de muraille entre des croyants différents. Cette muraille, c'est entre le monde, entre ce qui est de Satan et ce qui est du Seigneur, de Dieu. Mais par contre, il faut parfois mettre des barrières. Ce n'est pas les murailles, mais il faut parfois mettre des barrières lorsqu'en effet, parmi des chrétiens qui sont dans l'enceinte de cette muraille, s'il y a des chrétiens qui ne suivent pas le Seigneur, n'ont pas une mauvaise doctrine ou ont une vie qui n'est pas toujours à la gloire du Seigneur. Là, ce sont des barrières, pas des murailles. Par contre, on dit que la muraille, c'est une séparation entre le monde et Satan. Mais c'est, pardon, entre le monde et le Seigneur et Dieu. Mais c'est aussi une séparation entre les chrétiens et le monde religieux. Le monde religieux, c'est Satan. Et là, nous avons à faire aussi cette séparation. Et bien sûr, cela n'est pas toujours facile. Et nous nous laissons vite entraîner par un aspect religieux qui peut paraître bien. Je dirais un exemple, dans la chrétienté, on parle beaucoup de l'amour de Dieu. Oui, il faut venir à Dieu, Dieu vous aime, Dieu venez. Et on met totalement de côté sa sainteté. On met totalement de côté sa justice. C'est le monde religieux. Eh bien, nous avons à mettre cette barrière. Il y a cette sainteté, c'est ça qui nous sépare du monde et que dans notre vie pratique, nous devons aussi montrer.
Juste par rapport à ce qu'on vient d'entendre donner, juste une petite précision. Le monde religieux, ce n'est pas les gens, c'est les principes qui sont contraires à l'enseignement du Seigneur. Il faut bien le préciser. La séparation, c'est d'abord par rapport aux principes qui déshonorent le Seigneur. Et ensuite, par conséquence, avec ceux qui sont tenants de choses qui déshonorent le Seigneur. Donc, que personne ne dise, on a dit que les chrétiens sont le monde religieux. Non, il y a des principes qui sont opposés au Seigneur. Ça, c'est le monde religieux. Il faut toujours faire la différence, excusez-moi, je vais être très, très précis là, il faut toujours faire la différence entre, excusez-moi, le catholicisme et les catholiques. D'un côté, c'est un système que nous ne pouvons pas nous associer avec ce que nous avons compris de la parole, ça c'est la partie du monde religieux, on est bien d'accord. Mais d'un autre côté, il y a des personnes que le Seigneur aime et que nous devons aimer particulièrement, et d'autant plus si, en plus, ce sont des enfants de Dieu.
Peut-être, pour suivre un petit peu sur ce passage, nous voyons donc qu'il y a une progression, il y a cette agressivité de plus en plus forte de l'ennemi. Et donc nous voyons la réaction de Néhémie, nous priâmes et du peuple, nous priâmes notre Dieu, nous établîmes une garde contre eux, jour et nuit, à cause d'eux. Et qu'est-ce qui se passe? Et Judas dit, les forces des porteurs de fardeaux faiblissent et il y a beaucoup de décombres. Alors, première chose, cela nous rappelle ce que l'apôtre nous dit à la fin de l'épître aux Éphésiens, après avoir tout surmonté, tenir ferme. Ne pensons pas que parce que nous aurons surmonté une attaque de l'ennemi, il ne faudra pas tenir ferme parce que d'autres problèmes, d'autres difficultés ne vont pas survenir. Il y aura d'autres difficultés et en particulier, précisément, ce besoin de tenir ferme. Il y a eu un effort, il y a eu de la prière, il y a eu cet effort, cet engagement pour établir une garde, pour veiller, et puis précisément, il y a un moment de découragement. Les forces des porteurs de fardeaux faiblissent et il y a beaucoup de décombres. Alors soyons attentifs à cela et veillons à tenir ferme. Et pour tenir ferme aussi, s'il y a du découragement, eh bien soyons en aide les uns aux autres. Mais je pensais aussi à l'aspect pratique. Il y a beaucoup de décombres. Les forces des porteurs de fardeaux, tous ceux qui travaillaient à la muraille, en particulier peut-être sur un travail qui était peut-être moins valorisant. Il fallait apporter les choses, il fallait ce qui était lourd, il fallait le prendre, l'enlever. Et il y a beaucoup de décombres. Alors qu'est-ce que c'est les décombres pour nous? Les décombres qui nous empêchent de travailler, les décombres qui nous empêchent de venir nous occuper de cette muraille, de cette ville, de cette assemblée en fait, en pratique. Nous avons beaucoup de temps pour notre travail. Nous sommes loin du local, il faut repartir, on rentrera tard le soir. Il y a beaucoup de soucis, il faut s'occuper de ceci, il faut s'occuper de cela. Vraiment, on a beaucoup de choses à faire. Alors on n'a plus la force, on n'a plus le courage de s'occuper, on dira en plus, de l'assemblée. Il y a beaucoup de décombres, beaucoup de choses qui finalement ne sont pas utiles devant Dieu, mais qui nous empêchent de travailler à ce que le Seigneur place devant nous, qui nous empêchent de travailler à ce qui concerne son assemblée. Alors soyons attentifs à cela. Le psalmiste dit « Si je ne mets Jérusalem au-delà de la première de mes joies ». Il faut que les choses soient à leur place dans nos vies, qu'il y ait un ordre. L'assemblée, elle passe, est-ce qu'elle passe après nos préoccupations de chaque jour, la charge du travail, les longs trajets à faire, le fait de se coucher tard, ou est-ce que pour l'assemblée du Seigneur, nous sommes disposés à faire face à cela? On verra un peu plus loin que les porteurs de fardeaux, ils étaient toujours là. Il y avait autant de décombres à transporter, il y avait autant de fardeaux à transporter, mais ils avaient été stimulés, encouragés. C'était peut-être plus difficile de porter les fardeaux parce qu'ils devaient aussi avoir leur arme avec eux, mais ils avaient le courage de le faire. Alors là aussi, le Seigneur veut nous encourager à ne pas nous laisser submerger par ces soucis, par ces difficultés qui font comme tout cet tas de gravats, de décombres qui nous empêchent de travailler. Et puis, donc, en plus, il y avait peut-être les ennemis, eux, connaissent bien cette faiblesse. Ils savent bien. L'ennemi, notre ennemi, il sait très bien où nous en sommes, à bien des égards. L'ennemi connaît nos cœurs. Ce que l'ennemi ne connaît pas, c'est la grâce de Dieu et les ressources de Dieu. Et donc on voit tout ce moment difficile, on voit comment Néhémie va réagir, on y reviendra certainement. C'était ce que je voulais juste souligner, c'est le résultat de, si on peut dire, de cette épreuve supplémentaire. Une fois qu'elle est surmontée, qu'est-ce que Néhémie peut dire au verset 14 ? « Ne les craignez pas, souvenez-vous du Seigneur, qui est grand et terrible, combattez pour vos frères, pour vos fils et pour vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. » On a vu, dans le début de ce chapitre, Néhémie d'abord se tourner vers Dieu. « Écoute, ô notre Dieu, car nous sommes méprisés. » Et puis on le voit au verset 9, « Nous priâmes notre Dieu. » Mais là, il y a comme un progrès. La piété sort renforcée, elle sort fortifiée. Il y a vraiment cette relation avec Dieu, ce sentiment de ce que Dieu est là, de ce qu'il est pour son peuple, de ce qu'il est un Dieu qui est grand, qui est puissant, qui a une réponse, qui peut soutenir les siens. C'est le Seigneur qui est grand et terrible. Le Seigneur qui est plus grand que l'ennemi, qui est plus grand que nos problèmes, que nos difficultés, que nos faiblesses. Ils sont à travers l'épreuve, à travers même ces moments de découragement, le Seigneur les amène à le connaître lui, à se tourner vers lui, à se souvenir de lui personnellement. Et il rend aussi plus précieux pour nous le sujet du combat, ce pourquoi nous avons à combattre. Oui, nous ne combattons pas, si on peut dire ainsi, simplement pour un principe de séparation. Mais cela a déjà été dit, déjà on a eu cette pensée. Nous ne combattons pas simplement pour un principe de séparation, pour être séparés. Nous combattons, on l'a dit, pour nos enfants, pour nos familles, pour ceux qui sont là, que le Seigneur aime, que nous aimons et dont nous désirons qu'ils puissent jouir des bénédictions de l'Assemblée et qu'ils puissent honorer le Seigneur dans l'Assemblée. Et donc là, combattez pour vos femmes, pour vos frères, pour vos fils et pour vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Notre combat spirituel, il a un sens. D'abord, bien sûr, pour le Seigneur. Jérusalem, on nous l'a redit, c'est une figure de l'assemblée pour nous. Christ a aimé l'assemblée, il l'aime, et le Seigneur s'attend à ce que nous aimions ce qu'il aime, son assemblée. Mais il y a un sens dans ce combat, dans ce travail, quelque chose qui est bien plus, qui nous donnera la force de surmonter cette fatigue, ces décombres, ces moments de découragement. Les Juifs qui viennent des alentours, qui disent « Attention, on va vous attaquer. » Cela pouvait les décourager aussi, mais le Seigneur est grand. Notre Seigneur est grand. Et ça, quel encouragement et quelle leçon là, Néhémie et le peuple ont pu apprendre.
Pierre-Éric vient de l'évoquer. C'est ceux du verset 12. Vous avez déjà du découragement lié à des fardeaux, et il y a quelquefois des fardeaux qui sont très lourds, en effet. Mais il y a ceux du verset 12. Ils portent des fardeaux, ceux du verset 12. On peut dire que c'est ceux un peu comme ceux qui sont sur la touche et qui disent ce que les autres font pas bien. Est-ce que dans le rassemblement où je suis, est-ce que je fais partie de ceux qui portent les fardeaux, ceux qui bâtissent, ou bien ceux qui habitent avec les autres et qui viennent dire « Oui, attendez, ils vont vous attaquer, ils vont vous attaquer. » Qui sont sur le bord et qui disent comment il faut faire, qui vous avertissent et qui, par 10 fois, vous découragent finalement. On dira « Merci pour l'information. » Mais est-ce que leur place n'était pas là, sur la muraille, à la bâtir? Le frère Finet disait un jour de mariage, bon, maintenant les mariés sont grands-parents depuis longtemps, frère Finet leur disait ceci, j'oublierai jamais. On peut vivre de l'assemblée, ou bien on peut vivre pour l'assemblée. Il n'y a qu'un seul petit mot qui change. Demandons-nous si nous sommes des porteurs de fardeaux, même si c'est quelquefois très lourd. Ou bien si je suis dans les commentaires quand j'ai repris ma voiture après la réunion, trouvant que finalement ceux qui portaient les fardeaux et ceux qui ont agi, ben, c'était pas si bien que ça. Est-ce que je vis de l'Assemblée? Est-ce que je vis pour l'Assemblée?
Il y a un combat dans lequel on est souvent trouvé perdant. L'ennemi le sait. Et on le voit agir de cette manière déjà à la fin du chapitre 2. Il utilise les paroles. Ils dirent, qu'est-ce que vous faites, etc. Et puis dans le chapitre 4, ils parlent, ils disent, et on va un peu plus loin puisque c'est devant ses frères et devant l'armée de Samarie. On va essayer de réquisitionner et puis de monter un petit peu la foule et en particulier les soldats, puisque au verset 8 on voit qu'ils viennent pour faire la guerre. Donc on ameute, on se lie ensemble. Alors bien sûr, on ne peut pas quant aux ennemis du dehors, faire bien grand-chose quand les paroles sont dites contre nous. Mais ce qui est plus grave, c'est ce qui est dit par ceux de Judas au verset 10. Judas dit, Et puis au verset 12, les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent à nous le dire par 10 fois. Dans un sens, on a quelque chose de ce que Jacques nous dit. On connaît bien ce chapitre 3 de Jacques qui nous parle de la langue. Mais le verset 9, il nous dit « C'est un mal désordonné, plein d'un venin mortel. » Le venin mortel, il empêche de bâtir. Et ici, dans un sens, c'est bien ce qui se passe. Ces paroles sont là pour décourager, en quelque sorte, ceux qui travaillent. Et elles viennent finalement de l'intérieur. Et dans ce combat-là, on est très souvent perdant. Mais alors, il est remarquable de voir l'attitude de Néhémie. On l'a déjà rappelé, qu'est-ce qu'il fait? Il ne répond pas, il se tourne vers Dieu. Et puis, comme on l'a dit, on voit une progression, c'est notre Dieu. C'est pas seulement le sien, c'est celui du peuple qui travaille. Notre Dieu, une proximité en quelque sorte qu'on voit dans ce chapitre. C'est un Dieu connu, dont la puissance est connue. Et Néhémie va œuvrer pour non pas répondre aux attaques, mais pour tourner les regards et les cœurs vers ce Dieu, vers leur Dieu. Souvenez-vous du Seigneur. Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. C'est dans 2 Timothée 2, un état de ruine. La grande maison, on l'a dit, eh bien ici, au milieu de ces décombres, les regards et le travail de Néhémie est là pour tourner les regards vers celui qui peut tout. Et le résultat, nos ennemis apprirent que nous étions informés que Dieu avait dissipé leurs conseils. Et alors Néhémie va parler, je dis aux nobles, c'est le verset 19 et le verset 22. Mais dans tout ce que dit Néhémie, le but, c'est d'avancer dans cette construction et de tourner les yeux vers Dieu.
Nous avons donc vu dans ces dernières remarques que nous avons entendues avec beaucoup d'intérêt que ce n'est pas seulement des ennemis qui viennent de l'extérieur, des personnes qui nous entourent, mais c'est aussi quelque chose qui est dans nous, dans notre cœur. Attention, l'ennemi emploie pas seulement les choses qui nous entourent, mais l'ennemi emploie aussi la chair qui est en nous. Un frère a parlé aussi du fait qu'on peut être découragé. Oui, c'est possible. Mais d'où vient par exemple la paresse? La paresse dans les choses de Dieu. La paresse dans notre foyer, à la maison donc. De dire « Ah, c'est trop ». D'où vient cette paresse? Ou bien aussi, un autre côté encore, peut-être même un certain orgueil, en disant « Moi, je pense autrement. Moi, je sais, je n'ai pas besoin de quoi? De la parole de Dieu? Je n'ai pas besoin qu'on m'avertisse. Je n'ai pas besoin, moi je sais. Oh, ne croyez pas que je suis bête. Et je sais bien aussi apprécier et évaluer les choses autour de moi. » Chers amis, c'est très dangereux quand nous pensons être forts et quand nous pensons savoir, quand nous croyons savoir bien ce qu'il faut faire, sans être humble, dépendant du Seigneur. Eh bien, les choses qui ont été dites tout à l'heure, qu'on peut vraiment souligner, très souligner. Mais quel est le remède? Cela aussi a été dit. Moi, je répète simplement quelque chose. Mais le remède, c'est de chercher la proximité, ou plutôt dire la communion avec le Seigneur Jésus. Ça, c'est la chose. C'est là que notre orgueil disparaît. C'est là que nous jugeons ce qui est dans notre cœur, dans notre chair, disons plutôt. Et c'est là que aussi que nous cherchons, que nous trouverons la force. Et c'est là aussi que toute paresse disparaît. Comment est-ce que nous trouvons la communion avec le Seigneur? Eh bien, c'est encore très simple. Simple, mais important. C'est tout simplement avoir vraiment un contact avec lui, lui parler et le laisser parler. Nous avons souligné, et c'est, je crois que c'est absolument nécessaire, que nous soyons beaucoup plus en prière, que ce soit vraiment ce qui caractérise notre vie, que nous vivons avec le Seigneur, parce que nous avons du contact avec lui, en lui parlant et en le laissant parler. Et c'est dans la parole que le Seigneur nous parle. Ce n'est pas quelque chose qui arrive du ciel comme ça. Non, c'est la parole qu'il nous a dit, qu'il nous a donnée. C'est là que le Seigneur nous parle, et par la conduite de son esprit, il peut nous mettre exactement le point qui est nécessaire pour toi, pour moi. Et ça, c'est important, de vivre dans cette communion avec le Seigneur, et l'ennemi n'a plus d'emprise. Oui. N'oublions pas ce côté-là. Nous pensons peut-être à bien des choses que nous rencontrons, bien des choses que nous entendons, mais il y a quelque chose dans notre cœur, ou disons autrement, il y a aussi notre chair qui est toujours en nous, que l'ennemi emploie aussi pour nous influencer, pour avoir une emprise sur nous. Je répète, pas d'orgueil, pas de paresse, pas d'indifférence. Oh, c'est égal. Non, c'est pas égal. Cette indifférence qui se voit quelquefois parmi les chrétiens, cette indifférence, elle est mortelle pour la vie intérieure. Eh bien ça, il faut le confesser, il faut rechercher la communion, la proximité avec le Seigneur, ce contact journalier, oui, disons plutôt, chaque heure de notre vie.
La part de la foi dans toute l'Écriture, c'était toujours de faire intervenir Dieu, nous mettre de côté et faire intervenir Dieu. En priant, on le voit ici, nous priâmes notre Dieu. Et on a un exemple, 250 ans avant cette situation de Néhémie, il y a eu Ézéchias. Il est dit en Ésaïe 37, on peut juste lire quelques versets. Chapitre 37 d'Ésaïe, on voit le roi Ézéchias qui entend les paroles méchantes du Rabshaké, de Sanchérib. Et il peut dire au verset 3, « Ce jour est un jour de détresse. » Et puis, ils vont vers Ésaïe. Les serviteurs, verset 5 du roi Ézéchias et vers Ésaïe, qui leur dit, « Vous direz ainsi à votre Seigneur, ainsi dit l'Éternel, ne crains pas. » Et puis, au verset 15, Ézéchias prie l'Éternel. Et puis, verset 17, « Incline ton oreille, écoute Éternel, ouvre tes yeux et vois. » Et verset 20, « Sauve-nous de sa main. » Et on voit que Dieu a répondu à la prière, à la confiance d'un Ézéchias, dans un temps profondément difficile. Et quand le Rabchaké est rentré chez lui, bien, il a été tué. Dieu a répondu, n'est-ce pas? Dieu répond toujours. Et puis il y a, au verset 14 de Néhémie 4 qu'on a lu, on retrouve cela dans Ézéchias avec la parole d'Ésaïe, « Ne les craignez pas, ne les craignez pas. » C'est Néhémie qui dit cela. Mais quelque part, il avait reçu cette assurance de la part de Dieu. Et il peut dire à ceux qui travaillaient, « Ne les craignez pas, souvenez-vous du Seigneur. » Oui, Dieu répond toujours. Et puis « Combattez pour vos frères. » Combien cela est touchant, n'est-ce pas? Puis on a dit aussi fortifier, les mains lassées, affermissez les genoux qui chancellent, on le trouve au début d'Ésaïe 35 aussi. On le retrouve en Hébreux 12, n'est-ce pas? Que nous ayons à cœur d'encourager nos frères et sœurs à se fortifier dans le Seigneur. L'apôtre Paul disait à Timothée, fortifie-toi dans le Seigneur Jésus-Christ. En Éphésiens 6, il nous est dit aussi, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Oui, c'est en lui que se trouvent les ressources. Dieu a toujours des ressources pour nous, pour tous les croyants, dans tous les temps. Et la foi s'appuie sur les ressources que Dieu donne à ceux qui se confient à lui, à ceux qui s'attendent à lui, à ceux qui le recherchent, à ceux qui crient vers lui. Dans toutes les situations que nous pouvons connaître, nous soyons de ceux ainsi qui font simplement avec foi intervenir la puissance, la force et le secours de Dieu.
Dans les versets 10 à 12, nous avons trois attaques contre le peuple
de Juda, peuple de Dieu.
Premièrement, on a déjà parler sur le verset 10, c'est le découragement. Il y a autant de décombres. On n'a pas la force, c'est pas la peine de commencer. Qu'est-ce qu'ils ont fait déjà? Nous avons vu la muraille était réparée la moitié. Est-ce que Dieu a donné la force, le succès pour ainsi dire? Et là, pourquoi maintenant il commence à décourager les autres? Est-ce que nous sommes ceux qui, pas toujours négatifs, qui on a déjà souligné, qui découragent? Verset 11, une nouvelle attaque de dehors. Les ennemis disaient, ils ne le sauront pas et ne le verront pas jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux et nous les tuerons et nous ferons cesser l'ouvrage. C'est l'attaque violente, l'attaque surprise et le caractère de ses ennemis, du Satan, du monde, de nos chairs. Les trois vont souvent ensemble, c'est toujours le contraire d'être droit. C'est caché, c'est subtil, c'est essayer de faire des choses sans que ça c'est droit, que ça c'est transparent. Le croyant est totalement le contraire. Nous sommes encouragés à être droit, à être transparent et pas comme ils font. Il est intéressant, toutes les attaques sont nulles à la fin. Il n'y a aucune attaque qui a succès. À la fin, nous voyons qu'ils doivent s'armer et doivent prendre les armes, et c'était nécessaire, mais pas pour bâtir, pour combattre, mais pour être prêt à combattre. Mais il n'y avait jamais ici vraiment un combat dans ce sens-là. Troisième attaque, verset 12. C'est les Juifs qui ont vécu à côté de qui ? De ses ennemis. Et qui sont venus les canaux des instruments de ses ennemis. Le plus douloureux, le plus dangereux, c'est les croyants qui font l'œuvre des ennemis. Ils ont 10 fois, ils ont dit cette chose. Et de se défendre 10 fois contre une attaque, c'est très remarquable. Le chapitre plus tard, au chapitre 6, c'était avec Néhémie 4 fois que l'ennemi est venu. 4 fois. De résister 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais 10 fois. Ils ont invité les Juifs, ceux qui ont bâti, de laisser ce bâtiment et de venir dehors de cette ville pour habiter avec eux. Quelle attaque! C'est eux qui n'ont pas bâti avec les autres à Jérusalem et qui se justifiaient, qui essayent de se justifier par dire « c'est pas la peine, viens, venez chez nous et faisez comme nous ». Ça veut dire de ne bâtir, de ne continuer avec le rebâtiment de ce mur. Non, il faut continuer avec cette séparation. Et je crois qu'il est utile, au moins de courtement, parler de ces passages du Nouveau Testament qui parlent de la séparation. Il y a 4 ensemble, au moins. Je cite juste 2. 2 Corinthiens 6 qui parle de la séparation de ce système, de ce monde païen et de ces personnes qui s'identifient avec cela. Hébreux 13 parle de la séparation du camp juif et de ceux qui s'identifient avec ce système. Et troisièmement, je crois que c'est utile de regarder pour un moment ces 2 Timothée 2, un passage très connu, 2 Timothée 2, verset 19. Le solide fondement de Dieu demeure, ayant ce sceau, le Seigneur connaît ceux qui sont siens, qu'il se retire de l'iniquité quiconque prononce le nom du Seigneur. Ça veut dire, personnellement, nous sommes encouragés, exhortés, de nous séparer de toute iniquité, quoi que ce soit. Verset 20, l'apôtre prend cette grande maison. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais aussi de bois et de terre. Cette grande maison, c'est la chrétienté. Et dans cette chrétienté, il existe des croyants et des incrédules. Et il y a une deuxième distinction, les uns à honneur, les autres à déshonneur. Et il y a même parmi les croyants qui sont caractérisés par le déshonneur de Dieu, du Seigneur. Si donc quelqu'un se purifie de ceci, il sera un vase d'honneur, à honneur, sanctifié, utile au maître, préparé pour toute bonne œuvre. C'est une séparation de ceux, personnes, qui sont liés à cet déshonneur, à cette iniquité, à ce péché. Ça veut dire, nous voyons que dans la chrétienté, il faut se séparer des personnes, même s'ils sont des croyants, qui sont liés avec cet déshonneur du Seigneur, le péché, de marche dans le péché. Ça n'isole jamais, ça nous isole jamais. Verset 22. Fuis les convoitises de la jeunesse, poursuis la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Ça veut dire la séparation de ceux qui sont des vases à déshonneur du Seigneur, ne fait pas qu'on est isolé, mais qu'on se retrouve avec tous ceux croyants qui cherchent, qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Un quatrième passage que nous ne lisons pas souvent avec cette pensée de séparation, c'est Éphésiens 4. Éphésiens 4, verset 3. « Vous appliquons à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Ici, nous voyons que cette séparation de tout système, de ces personnes qui sont liées à ces systèmes, n'a aucun sens si ce n'était pas sur la base de l'unité du Seigneur, de l'Esprit. Cette unité que l'Esprit forme aujourd'hui, pour ceux, c'est le mur en fait, cette muraille, qu'il forme cette unité avec ceux qui, de Timothée 2, invoquent le nom du Seigneur d'un cœur pur. Alors, ce sont quatre passages du Nouveau Testament qui montrent clairement que la séparation négative, comme on dit, de ces choses, de quelques personnes, est toujours liée avec une séparation, sanctification pour le Seigneur, pour ceux qui invoquent le nom du Seigneur avec un cœur pur. Et ça s'est mis en cause ici. Par qui ? Par même les Juifs, par ceux qui étaient partis de ce peuple. Et c'est le plus douloureux. Si ceux qui sont des croyants nous demandent de ne continuer avec cette séparation pour le Seigneur contre le péché, contre l'iniquité. Mais même ici, nous voyons, il y a cette réponse encourageant, cette vigilance et cet encourageant dans les versets 13 et 14 qui montre que Néhémie a vu ce danger, mais il a vu aussi qu'il y a une porte, et ça existe pour nous toujours. Il y a une porte où on peut continuer avec le Seigneur, avec la séparation, avec l'encouragement.
Il y a peut-être quelqu'un dans la salle, un jeune peut-être, qui dit « Oui, alors vous dites qu'il faut se séparer des vases à déshonneur. » Ça veut dire en conséquence que vous êtes des vases à honneur, que vous devez ou doit poursuivre la justice avec ceux qui ont un cœur pur, donc vous avez le cœur pur. Vous l'avez peut-être déjà entendu, moi j'ai déjà entendu des jeunes qui disaient ça. Donc vous décernez des médailles en disant que vous êtes les bons et les autres c'est les mauvais. Il y a des jeunes qui pensent peut-être ça, là, dans la salle. Je crois qu'il ne faut pas considérer les choses en nous disant on est des vases d'honneur. Nous devons recentrer les choses sur celui dont nous nous réclamons, celui autour duquel nous nous rassemblons. Ce qui est important et ce qui doit exercer nos cœurs, bien sûr, c'est notre état personnel. Mais avant tout, qu'est-ce qui est digne de notre Seigneur? Qu'est-ce qui est à sa gloire dans le rassemblement? Je dirais même le reste, c'est un peu égal. Ne mettons pas le projecteur sur nous, mettons le projecteur sur notre Seigneur. C'est lui le chef de l'assemblée. Nous désirons tous, n'est-ce pas, nous rassembler autour du Seigneur, que ce ne soit pas un mot, mais que nous soyons conséquents par rapport à cela. Seigneur, ici, tu es chez toi. Alors, est-ce que nous pouvons associer le saint nom du Seigneur avec quelque chose qui est contraire à sa parole? Il peut y avoir de l'ignorance. Et ça nous montre bien que nous n'avons pas à appliquer toujours des principes, mais quelquefois un exercice. Nous ne nous rassemblons pas parce qu'on est les bons et les autres sont des mauvais. Mais nous avons à être fidèles à ce que nous avons compris de la parole de Dieu. Et nous n'avons pas tout compris.
mais nous sommes comptables devant le Seigneur de ce qu'il a bien voulu nous révéler dans sa grâce quant au rassemblement collectif. Avoir une même pensée, avoir un même sentiment, ce n'est pas forcément penser à la même chose et souscrire un credo, comme ça se fait. Avoir une même pensée, c'est avoir ensemble dans le rassemblement le désir que le Seigneur soit chez lui. Tendre vers ce que nous avons compris de sa parole. Bien sûr, ces choses sont toujours en partie. 1 Corinthiens 13 a cette expression. Nous connaissons en partie, nous réalisons en partie. Mais avoir un même sentiment, c'est être orienté du même côté. Avoir le désir que le Seigneur soit honoré. Et alors nous sommes comptables devant le Seigneur par rapport à ce qui est digne de lui et ce qui n'est pas digne de lui. Alors ça ne met plus le projecteur sur nous et ça fait tomber cette question de dire vous vous prenez pour des vases en honneur. On n'est rien du tout. Mais le Seigneur, lui, est grand. Et fasse que nous ayons le désir qu'il soit honoré dans ce temps de si petites choses. Est-ce que nous pouvons faire ça au Seigneur lorsque quelqu'un vient avec des doctrines étrangères, d'associer la présence du Seigneur et sa table? La table nous parle de quoi? Nous parle d'autorité, celle des frères, mais non, celle de l'assemblée, même pas l'autorité du Seigneur. Est-ce que nous pouvons faire ça, d'associer quelque chose qui déshonore le Seigneur alors que nous nous réclamons de sa présence? Mais on se moque de qui? Alors nous n'avons pas tout compris, ni celui qui parle, ni ceux qui écoutent. Mais de ce que nous avons saisi comme étant la vérité du Seigneur, nous devons être conséquents avec cela. Je vais dire aussi un petit mot par rapport à ces endroits bas, à ces lieux découverts. Tout à l'heure, Jacques nous a parlé de cette muraille qui était à moitié. Il y avait des endroits, comme tu l'as dit tout à l'heure, des endroits qui étaient plus bas que d'autres, des endroits où l'ennemi pourrait plus facilement rentrer, des endroits où il suffisait peut-être d'enjamber un peu, mais voilà. Alors, sur le plan personnel, la parole nous dit dans le discours sur la montagne, chapitre 6 ou 7, de, 6 je pense de Matthieu, « Si ton œil est une occasion de chute, nous avons tous nos faiblesses, n'est-ce pas ? Vous avez peut-être aussi dans votre vie des choses où vous êtes un peu en bas, où l'ennemi facilement attaque. Hein. Parce que l'ennemi, c'est un lâche, il vous attaquera toujours là où il sait que là vous êtes un peu faiblard. » Ça, l'ennemi fait toujours ça. Puis les endroits qui sont découverts, c'est-à-dire il y a des endroits bas, et puis tout de suite après, ben, l'ennemi pourrait être là, à l'intérieur. Alors là, nous avons à veiller particulièrement à nos tendances. Et si c'est vrai pour nous individuellement, notre œil a coupé, notre main a coupé aussi. C'est deux exemples qui nous sont donnés dans le Sermon sur la montagne de Matthieu. Nous avons cela aussi collectivement. Dans la vie d'assemblée, il y a peut-être des tendances, il y a peut-être tendance à l'élargissement, il y a peut-être aussi une tendance à une radicalisation qui ne vaut pas mieux que l'élargissement. Et là, nous avons à veiller, comment est-ce que nous pouvons veiller? Comment est-ce que nous pouvons établir des postes? C'est dans un exercice devant le Seigneur. Les postes, c'est des gens qui étaient vigilants, ce n'est pas des gens qui sont couchés par terre et qui ont commencé à dormir. C'est des gens qui étaient là, qui avaient l'œil ouvert en disant « attention, on est dans un endroit dangereux ». Et à ce moment-là, c'est l'exercice que nous avons apporté, peut-être dans les réunions de prière, peut-être avec quelques frères, avec quelques amis, on s'est rencontrés, on a parlé de quelque chose, on se met à genoux, ensemble, on prie. « Seigneur, tu vois, nous avons cette faiblesse dans le rassemblement et nous te l'apportons, c'est un poste ça ». Surtout qu'il nous est dit, je plaçais le peuple par, vous avez lu, je postais le peuple par famille. Ah, tiens, tiens, la force d'une famille chrétienne, la force, le bon état d'un rassemblement dépend de la santé de nos familles. C'est pas dans l'autre sens. Si nos familles sont en ordre, si le Seigneur se sent bien chez nous, selon une expression du Deutéronome, le serviteur, il se sent bien chez toi, eh bien, il y aura une bénédiction sur le rassemblement. Si ça crie dans une famille, si les enfants font ce qu'ils veulent, si les enfants sont insolents, ben, forcément, ça va se traduire sur la vie d'assemblée. Là, on les a placés par famille. Avec quoi ? Pas donner une explication sur les piques et sur les arcs, mais en tout cas, c'est avec l'épée. C'est quoi cette épée sinon la parole de Dieu ? Une famille qui est conduite par quelque chose qui est mis en honneur en premier la parole de Dieu. Mais quelle bénédiction pour le rassemblement ! Quelle bénédiction pour ces endroits bas, ces endroits où l'ennemi se lâche, risque de nous attaquer ! Il y a des familles qui tiennent, des familles qui vivent l'amour du Seigneur, qui vivent la séparation, qui sont une bénédiction pour le rassemblement. Oh, fasse le Seigneur que nos familles soient là pour la bénédiction du rassemblement et pour la joie de notre Seigneur Jésus.